France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quel futur pour le CERN, tout juste septuagénaire ? Le CERN, créé en 1954 à côté de Genève, est devenu le haut lieu de la physique des particules. Ce grand laboratoire est aussi l'endroit où l'on voit le mieux l'Europe en acte. L'Europe s'y montre vraiment, en effet, non comme une réalité donnée qui serait inscrite dans l'ordre naturel des choses, mais comme une construction humaine issue d'un geste parfaitement intentionnel. Chacun se souvient notamment que c'est là, au CERN, que le boson de Higgs a été détecté pour la première fois en juillet 2012. Cette découverte a constitué un événement scientifique majeur, mais elle était aussi une leçon politique au sens noble du terme. Loin d'être tombée du ciel, elle fut le résultat d'une très longue persévérance de la part des scientifiques, bien sûr, mais aussi des institutions qui les soutiennent depuis plusieurs décennies. On peut même dire, en cédant un peu à l'emphase, je le concède, que cette découverte est venue couronner une histoire encore plus longue, pour une grande part européenne, en précisant la réponse à une question qui fut posée il y a bien longtemps sur les rivages de la mer Ionienne. De quoi la matière est-elle faite et comment se structure-t-elle ? Il se trouve que le CERN vient de fêter ses 70 ans. C'est bien sûr l'occasion de revenir sur sa création, de raconter son histoire et d'évoquer son avenir. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir deux éminents physiciens des particules, deux conquérants du minuscule, comme aurait dit Gaston Bachelard. Le premier est Gregorio Bernardi, bonjour.
Bonjour Étienne.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, co-responsable du projet FCC France. Il faudra nous expliquer de quoi il s'agit. Et vous avez été, pendant quelques années, le porte-parole d'une expérience au Fermilab à Chicago, aux États-Unis, qui a conduit à la détection pour la première fois du quark top, qui est une particule élémentaire. Mon second invité est Michel Spiro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien, ancien président du Conseil du CERN, vous l'avez été de 2010 à 2013. Vous êtes également le président de l'Union Internationale des Physiciens, l'IUPAP. Et vous avez été donc très proche du CERN pendant ces années, vous avez présidé son conseil. Je vous avais d'ailleurs reçu, Michel Spiro, il y a 10 ans, pour les 60 ans du CERN. J'ai l'impression que vous êtes amoureux du CERN, en fait, non ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Je continue d'ailleurs à travailler au CERN, puisque je préside la fondation CERN et Société. C'est vrai que je garde non seulement un souvenir, mais j'essaye, à travers mon activité, de porter les valeurs et aider le CERN.
Alors l'idée du CERN, elle a été mise pour la première fois par un prix Nobel français, Louis de Broglie, qui est le prix Nobel en 1929 et qui en 1949, lors d'une conférence européenne de la culture qui s'était tenue à Lausanne, a émis l'idée que l'Europe, après la guerre, devrait créer un laboratoire scientifique européen. Et cette idée a visiblement séduit pas mal d'États membres d'emblée.
Oui, c'est tout à fait l'esprit du CERN, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe était dévastée. Louis de Broglie, mais aussi Pierre Auger, qui à l'époque avait un rôle important à l'UNESCO, ont souhaité que l'Europe se ressaisisse et unisse ses forces, y compris avec l'Allemagne, donc réconcilie un peu ses forces qui se combattaient peu de temps avant, pour que dans la science, on puisse rivaliser avec les États-Unis, qui avaient une machine, un accélérateur en projet de protons de taille importante, et l'URSS, qui était l'autre acteur de la physique des particules de l'époque. Et donc le CERN s'est créé pour que l'Europe puisse aussi avoir sa machine à elle. Ça a été le synchrotron à protons, un accélérateur comparable à celui des États-Unis et de l'URSS.
Alors j'ai dit, en parlant de ce laboratoire, que c'est un laboratoire de physique des particules qui étudie donc ce qu'on appelle, un peu trop rapidement à mon avis, l'infiniment petit, mais ça a aussi des résonances en astrophysique et même en cosmologie.
Oui, le boson de Higgs jette non seulement une lumière nouvelles sur la compréhension de la matière, comme ça a été dit dans l'introduction de cette émission, mais il jette aussi un regard nouveau, une lumière nouvelle sur les premiers instants de l'univers. Comment les particules se sont différenciées, comment la masse est venue aux particules. En fait, il apporte un peu un éclairage nouveau sur comment la lumière fut et comment la masse vint aux particules.
Alors Michel Spiro, ce boson de Higgs avait été prédit par quelques physiciens théoriciens en 1964, et pendant 48 ans, on s'est demandé s'il existait vraiment. Il a été détecté pour la première fois en 2012, l'annonce a été faite le 4 juillet de cette année-là. Vous étiez à l'époque président du conseil du CERN, donc on pourrait dire aux premières loges. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous étiez sûr de son existence? Et qu'est-ce qu'on ressent quand on voit sur quelque écran se profiler un signal qui ressemble à ce qu'on attend?
Ça a été un événement planétaire. Hein. L'annonce a été faite le 4 juillet 2012 dans un auditorium plein à craquer. Les jeunes avaient fait la queue depuis à minuit, ils commençaient à faire la queue pour pouvoir entrer
à la porte de l'amphithéâtre.
Oui, c'est ça, à la porte de l'amphithéâtre pour pouvoir entrer à 9h du matin.
Pourquoi vous dites les jeunes? Il n'y avait que les jeunes qui dormaient?
disons que les personnes du conseil, les personnes plus âgées, ils avaient des places réservées. Et donc il y avait un certain nombre de places pour les jeunes qui arrivaient, les premiers étaient servis, sinon ils allaient dans des salles où c'était retransmis dans le monde entier de toute façon. C'était un peu comme un concert de rockstar, hein. Et d'ailleurs ça a fait les titres de la presse dans le monde entier, avec souvent cette comparaison avec un grand concert de rockstar. On estime que plus d'un milliard de personnes ont été exposées et savaient dans la rue que le boson de Higgs avait été découvert. Ils ne savaient pas très bien de quoi il s'agissait, mais elles sentaient que c'était un moment important pour l'humanité. C'était un peu la découverte d'un nouveau continent, mais un continent de la connaissance, pas un continent géographique, mais ça se comparait à des découvertes comme l'Amérique, mais c'était l'Amérique au sens de la connaissance. Ça a eu un retentissement mondial, et effectivement, c'est quand même un couronnement d'une quête qui a mis pratiquement 60 ans, hein, puisque, comme vous l'avez dit, hein, l'idée du boson de Higgs, c'était en 1964, par trois acteurs principaux, Brout, Engler et Higgs. Brout et Engler, ce sont deux Belges, et Higgs, un Écossais. Alors la prédominance de la communication anglo-saxonne a fait que c'est devenu le boson de Higgs. Normalement, je pense que Brout et Engler méritent aussi bien que Higgs la pérennité de cette découverte. Mais
Robert Brout n'était pas là puisqu'il est mort en 2011.
Il est mort, c'est vrai.
Et dans la salle, il y avait Peter Higgs, oui. François Englert, qui était à quelques mètres de distance de la nôtre, qui ne s'étaient jamais rencontrés.
C'est juste.
Et qui ont versé une petite larme, je crois.
Oui, c'est juste. D'ailleurs, on appelle ce mécanisme qui... J'ai fait allusion à comment la lumière fut et la masse vint aux particules. On appelle ça le mécanisme de Brout, Engler et Higgs. Mais la particule elle-même, on l'appelle le boson de Higgs. C'est rentré dans le langage courant. L'aventure a eu plusieurs étapes, hein, et les Français ont joué un rôle important. Une étape majeure a été en 1973, grâce à André Lagarrigue, la découverte d'un nouveau type d'interaction qu'on appelle les courants neutres, avec une chambre à bulles de liquide lourd, dont on fête maintenant les 50 ans, en gros. Et puis en 1983, avec Carlo Rubbia, qui a eu le prix Nobel, malheureusement, André Lagarrigue, lui, comme Robert Brout, est décédé avant d'avoir le prix Nobel. Carlo Rubbia, donc, avec une machine dédiée à ça, a découvert, pas le boson de Higgs, mais des particules qu'on appelle les bosons intermédiaires, qui étaient prédits par la théorie de...
Mais vous-même, Michel Spiro, vous étiez...
Moi, je participais avec Carlo Rubbia à cette découverte.
Et vous êtes intéressé également aux neutrinos, ces particules élémentaires qui sont produites notamment par le Soleil. Vous avez été le porte-parole d'une expérience qui s'appelle Eros. Donc, vous avez traversé toute cette histoire de 50 ans, on peut dire?
Oui, bah, c'est ma carrière.
Et quel est l'événement qui vous a le plus marqué? Ou l'événement ou la découverte qui vous a le plus surpris, à laquelle vous ne vous attendiez pas?
La plus surprenante, c'était 1973, la découverte des courants neutres. À ce moment-là, peu de gens croyaient à cette théorie initiée par Brout, Engler et Higgs. Donc là, c'était réellement un coup de tonnerre. Alors, il y avait quelques théoriciens qui y croyaient, évidemment, ceux qui étaient à l'origine de la théorie, Weinberg, Salam et
Glashow.
Et Glashow, voilà. Glashow-Weinberg, ça. Donc le modèle standard qui s'appuyait sur les idées de Brout, Engler et Higgs. Donc eux n'étaient peut-être pas surpris, mais la communauté était très surprise. Donc ça a été un coup de tonnerre en 73. La découverte des bosons intermédiaires avec Carlo Rubbia était plus attendue.
Les bosons intermédiaires, c'est les particules qui médiatisent l'interaction faible.
Faible, c'est ça. Donc leur prédiction était devenue solide après la découverte par André Lagarrigue et de ce type d'interaction qui était dont les intermédiaires étaient les bosons intermédiaires W et Z. Donc là, c'était déjà beaucoup plus attendu. Le boson de Higgs, ça a été une surprise parce que on se doutait qu'il devait exister, mais il y avait une partie de la communauté qui pensait que c'était une spéculation quand même audacieuse. En plus, on connaissait pas sa masse. Elle pouvait être n'importe quoi, jusqu'à 1000 GeV. Et on a eu la chance...
1000 fois un proton.
1000 fois la masse du proton. Le LHC pouvait répondre à la question s'il existait ou s'il n'existait pas. La question existentielle, donc le LHC avait été construit pour ça. Pour qu'on puisse...
Le LHC, c'est une machine de 27 km de circonférence, installée dans un tunnel, donc.
Voilà, qui permettait, donc, la motivation principale, c'était de savoir s'il existait ou s'il n'existait pas. S'il n'existait pas, ça veut dire qu'il fallait repenser complètement la théorie. S'il existait, ça serait un couronnement de la théorie. On savait tout sur le boson de Higgs, sauf sa masse, et on savait simplement qu'elle était inférieure à 1000 GeV, et donc elle était accessible au LHC. Et il a été découvert à une masse de 126 GeV. Donc on peut dire que c'était une surprise, on ne s'attendait pas forcément à ce que... Il y avait des indications indirectes par la machine précédente qu'on appelait le LEP, qui était des collisions et plus et moins.
Électron-positron.
Donc, qui permettait de voir, en faisant des mesures de précision, s'apercevoir qu'on avait vraiment besoin du boson de Higgs pour décrire les résultats de ces mesures de précision, et que probablement la masse du boson de Higgs devait être de l'ordre de 126 GeV. Le LEP avait même cru avoir des indications de l'existence de cette particule, le cru l'avoir vue, mais c'était très marginal, et on a dû arrêter le LEP pour passer au LHC, et réellement la découvrir le 4 juillet 2012.
Vous, Gregorio Bernardi, quelle est votre histoire commune avec le CERN? Vous y arrivez quand?
Disons, moi j'ai fait ma thèse au CERN, bien sûr. Enfin, disons, c'était à l'époque sur une expérience de neutrinos. Mais après, j'ai participé à l'aventure européenne, puisqu'il y avait un autre grand laboratoire européen, qui est le laboratoire DESI, qui avait un accélérateur électron-proton, le seul accélérateur électron-proton.
En Allemagne.
En Allemagne, à Hambourg. Et donc, ceci a été aussi une belle collaboration internationale qui a renforcé aussi les liens franco-allemands, bien sûr. Et la France était partie prenante dans cette physique qui a permis d'explorer les interactions fortes en grand détail, découvrir l'évolution de ce qui s'appelle les partons, qui permettent de faire à la suite la physique que l'on fait justement maintenant au LHC. Et après, effectivement, après cette période, qui a duré un certain nombre d'années aussi, c'était soit le moment de rejoindre la préparation du LHC au CERN, soit c'était aussi le moment de préparer les physiciens européens à cette physique proton-proton, en rejoignant un projet concurrent aux États-Unis, au Fermilab de Chicago. Et donc une partie des physiciens ont rejoint cette expérience qui avait ces expériences, donc il y avait l'expérience des zéros et l'expérience CDF, qui avait découvert le quark top, donc le quark le plus lourd du modèle standard, et qui allait continuer à faire des recherches, éventuellement pour chercher le boson de Higgs avant que le LHC démarre. Et donc toute une partie de physiciens, une centaine de physiciens européens avaient rejoint cette expérience.
Dans l'idée de se former.
Dans l'idée de se former, beaucoup. Effectivement, là-bas ont été développés notamment ce qui s'appelle les réseaux de neurones pour les recherches, et qui ont été transportés au LHC et qui ont permis la découverte du boson de Higgs aussi plus rapidement que ce que l'on pensait. Au début, on pensait que le boson de Higgs, on aurait eu besoin de plus de données, mais finalement, avec l'amélioration de ces techniques, la découverte a été extrêmement rapide. Et de mon côté, j'étais aussi extrêmement surpris, puisqu'à l'époque, je dirigeais le projet concurrent aux États-Unis, et effectivement, le LHC très rapidement a fait cette découverte.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler la base de tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on espère comprendre ou apprendre en faisant des collisions de protons contre des protons. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant ça?
Alors, qu'est-ce qu'on apprend?
Pourquoi on fait ça?
Pourquoi on fait des collisions proton-proton? Alors, il y a deux types, effectivement, deux grands types. Il y a les collisions électron-positron qui permettent de faire de la physique de précision, puisqu'on connaît très bien l'état initial, et donc ce sera plus facile de faire des calculs théoriques qui nous diront les phénomènes qui seront prédits. Par contre, en proton-proton, on est capable de monter à bien plus haute énergie, et donc, l'énergie étant équivalent à la masse, on va pouvoir essayer de découvrir des particules de masse supérieure. Et c'est un peu le but actuellement du LHC. Après avoir découvert le boson de Higgs, le LHC est en train d'accumuler énormément de données pour voir si on serait capable de découvrir des nouvelles particules de plus haute masse.
Donc si je comprends bien, les machines électron-positron sont plutôt destinées à une sorte de métrologie fine.
Exact.
Et les machines proton-proton plutôt des machines exploratoires.
Exactement, c'est un peu ça le but. Et puis chacune, en fait, a des possibilités, puisque maintenant on fait des mesures de précision également au LHC. On a appris à maîtriser les bruits de fond avec toutes les données qui ont été accumulées. Et réciproquement, dans les machines électron-positron, par exemple dans cette machine qui va venir, on est capable aussi de chercher des interactions très faiblement, ce qu'ils appellent très faiblement couplées, et donc qui pourraient ne pas être vues au LHC parce qu'elles seraient dans le bruit de fond. Et là, par contre, comme on est dans un environnement propre, en électron-positron, on pourrait donc voir ces parties. Donc c'est tout un autre domaine d'où pourrait se situer la nouvelle physique que l'on recherche.
Et vous, oui, la raison. Les machines, comme l'a dit Gregorio, les machines proton-proton, il faut bien voir qu'un proton, ce n'est pas une particule élémentaire. Il est constitué de trois quarks et en plus une mer de quarks-antiquarks. Donc on fait rencontrer deux sacs l'un dans l'autre. Donc c'est difficile de faire des choses très précises. Par contre, lorsqu'on fait électron-positron, les électrons et les positrons sont des particules élémentaires. Donc l'énergie de la collision est directement l'énergie qui va être utile pour faire des mesures. En proton-proton, ça sera un quark qui va emporter une fraction variable de l'énergie contre un autre quark ou bien un gluon contre un autre gluon.
Connaît moins bien l'état initial.
Moins bien l'état initial. Par contre, les machines électron-positron, surtout les machines circulaires, sont limitées en énergie parce que les électrons, accélérés à haute énergie dans un cercle, rayonnent de l'énergie. C'est comme ça qu'on fait des sources de lumière. Et donc, on ne peut pas monter trop en énergie parce qu'on perd toute l'énergie, non plus à accélérer, mais en rayonnement de lumière. Alors que proton-proton, comme les protons sont beaucoup plus lourds, dans une machine circulaire, on peut les monter à beaucoup plus haute énergie avant qu'ils se mettent à rayonner.
Gregorio Bernardi, vous étiez au CERN en 2012.
Oui.
Vous travaillez à l'expérience Atlas, qui est l'une des deux expériences du LHC qui ont démontré l'existence du boson de Higgs. Comment est-ce que vous avez vécu les choses? Comme Michel Spiro, ou vous aviez un point de vue différent?
J'avais un point de vue différent, parce que comme je vous disais, en fait, j'étais porte-parole de l'expérience concurrente aux États-Unis.
Ah, donc, vous étiez schizophrène.
Donc j'étais schizophrène, et donc, j'avais été invité, j'étais aussi dans l'auditorium, mais effectivement, j'ai pu constater que le LHC avait réussi magnifiquement parce que à l'époque effectivement le Tevatron commençait à avoir des premiers signes.
Le Tevatron, c'est la machine
du Fermilab, exactement, et commençait à avoir des premiers signes aussi de ce boson d'X. Mais évidemment, c'est de loin le LHC qui avait toute la statistique pour faire cette découverte et qui l'a fait brillamment. Mais donc, pour reprendre ce que disait Michel, c'est pour nous, malgré tout, physiciens d'une génération légèrement postérieure, c'était quand même une découverte exceptionnelle parce que effectivement on n'avait pas vraiment eu l'occasion de vivre ces découvertes comme celle du WZ qui était une des dernières grandes. La découverte du quark top était assez attendue qui a eu lieu en 95. Par contre, cette découverte était inattendue, enfin elle était attendue, mais il y avait beaucoup de gens qui questionnaient. Il y avait vraiment une partie des physiciens qui n'y croyaient pas. Et donc, ça a été quand même un fantastique achèvement.
Mais le LHC, donc, oui, la machine au CERN, même si elle était en compétition avec les Américains, finalement, elle s'est imposée comme la machine mondiale de la frontière à haute énergie. Et les Américains sont venus travailler en nombre au LHC, et pratiquement la planète entière est venue travailler. Ceci dit, ce qu'a dit Gregorio, ça montre bien qu'il y a une combinaison de compétition et de collaboration qui existe entre les différents groupes.
J'étais sûr que vous alliez parler de ça.
Et c'est ce qu'on appelle la coopétition.
Je l'aurais dit à votre place. Mais Michel Spirou, vous vous souvenez peut-être que je vous ai reçu donc il y a 10 ans, en 2015, pour les 60 ans du CERN. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Le LHC a fonctionné, a accumulé des données. Est-ce qu'il y a des découvertes qui ont été faites ? Ou est-ce qu'on en reste au boson de Higgs ?
Alors, d'abord, des bosons de Higgs, on en a produit beaucoup plus que les tout premiers qu'on voyait.
Un million par an ?
Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Et on l'étudie avec précision, précision relative, malgré tout, parce qu'on a des projets pour augmenter encore plus la précision. Pour l'instant, tout se passe comme attendu, prédit par la théorie de. Donc, c'est la théorie qui a été élaborée par. Par le modèle standard, élaboré par Glashow, Weinberg et Salam.
Est-ce que c'est pas énervant, ça?
Alors, c'est un peu énervant. On va continuer encore pendant plus d'une quinzaine d'années. Environ une quinzaine d'années, en augmentant encore d'un facteur 10 le nombre de collisions proton-proton. Donc, on va améliorer la précision. On espère quand même toujours qu'il y a peut-être des déviations qui vont nous donner un signe d'une nouvelle physique. Il y a quelques anomalies qui existent, mais elles ne sont pas encore significatives aujourd'hui pour pouvoir être annoncées. Donc on espère qu'une de ces anomalies va finir par sortir dans les 15 ans qui viennent et nous guidera pour le futur.
Mais il n'y a pas eu de découverte de nouvelles particules, mais certaines particules qui étaient attendues, d'après certains modèles, ont démontré qu'elles n'existaient pas. Et démontrer qu'une particule n'existe pas, c'est très important aussi.
Oui, clairement, grâce à l'accumulation des données au LHC, on est capable maintenant d'exclure un grand nombre de modèles qu'on appelle exotiques. Ça, c'est effectivement un progrès. En ce qui concerne le modèle standard, est-ce que c'est un peu énervant ? Oui et non. Parce que d'un côté, on est quand même extrêmement content d'avoir un modèle très précis. Mais d'un autre côté, on est complètement sûr que ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'il n'est pas capable d'expliquer des phénomènes cosmologiques, l'existence de la matière noire, des choses comme ça, la symétrie matière-antimatière.
La gravitation.
La gravitation, n'en parlons même pas, parce qu'elle n'est même pas dans le modèle standard. Donc on sait qu'on a un programme de recherche énorme, mais bon, évidemment, c'est pas facile. Mais les physiciens sont motivés et sont prêts justement à aller à la prochaine étape pour essayer de découvrir cette nouvelle physique. Et cette nouvelle physique, tout le monde pense qu'elle passe par le boson de Higgs. Parce que, comme l'a dit Michel, c'est la nouvelle Amérique. C'est quelque chose que personne n'imaginait l'existence. Comme l'Amérique, personne n'imaginait son existence avant qu'elle soit découverte. Et avant qu'elle soit découverte théoriquement, là je parle, et puis ensuite réellement. Et donc, on pense qu'effectivement, c'est elle qui va nous mener vers de la physique au-delà du modèle.
Donc c'est la nouvelle conquête de l'Ouest.
Belle conquête de l'Ouest, oui.
Et je sens que vous allez nous parler du FCC. Mais avant, Michel Spirou veut prendre la parole.
Non, moi je suis d'accord avec ce que dit Grégorio. Le boson de Higgs, il est dans l'imagerie, dans l'inventaire des particules élémentaires, il est tout à fait à part. On connaît deux types de particules, les particules de matière, celles dont on est faites, qui ont ce qu'on appelle un spin, c'est le moment cinétique intrinsèque demi-entier. Et puis il y a les particules donc ça c'est les particules de briques, c'est les briques de la matière. Et puis il y a le ciment, les particules de force, celles qui véhiculent l'interaction électromagnétique, le photon, l'interaction faible, on en a parlé, les bosons intermédiaires, l'interaction forte, les gluons. Toutes celles-là ont un spin 1. Et le boson de Higgs, c'est la seule qui a un spin 0 et qui, comme je l'ai dit, confère à toutes ces particules une masse. C'est grâce à elle, par des propriétés du vide de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une empreinte du champ de Higgs. Une particule est à la fois une particule et une onde, c'est ce qu'on appelle un champ. Ça remplit tout l'univers, et le champ de Higgs qui remplit tout l'univers donne une espèce de viscosité au vide, qui fait que les particules sentent une inertie et que ça leur donne une masse. Sauf le photon, la lumière et les gluons. Donc c'est une particule de spin zéro, ce qui est tout à fait particulier.
Sans charge électrique.
Sans charge électrique, ça a les nombres quantiques du vide. C'est pour ça que il y a un lien très profond entre le boson de Higgs et le vide. Le vide, c'est ce qu'on appelle le vide quantique. En fait, il n'est pas vide. Oui, il n'est pas vide. Il est vide de particules réelles, mais il est rempli de champs. Et le boson de Higgs, qui a exactement les normes quantiques du vide, il laisse sa marque dans le vide. Donc, il a une empreinte cosmologique sans doute importante. On sait que le vide quantique a joué un rôle très important au premier instant de l'univers. L'inflation est probablement liée à un champ qui ressemble au champ de Higgs.
L'inflation, c'est le fait que l'espace s'est très brusquement dilaté.
Voilà, c'est le Big Bang.
Dans des proportions gigantesques.
C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Et on pense actuellement que c'est lié à un champ scalaire comme le boson de Higgs, peut-être le boson de Higgs lui-même. Et comme je l'ai dit, on sait que le champ de Higgs a une empreinte sur le vide qui confère la masse aux particules. Donc c'est vraiment un objet nouveau. Hein.
C'est non seulement un objet nouveau, et puis c'est une particule aussi qui a cette propriété fondamentale d'interagir avec elle-même. Et quelque chose qui n'a pas encore été établi expérimentalement, c'est cette self-interaction, l'interaction avec elle-même, et qui est un des grands challenges maintenant de la machine actuelle, du LHC à haute luminosité, donc dans les prochaines années, et puis à terme du FCC, donc le futur Circular Collider, si cette machine est approuvée, parce que justement on veut mettre en évidence, pour être sûr que le modèle standard est correct, cette interaction du boson de Higgs avec lui-même, et pour ça on le détecte en détectant la production de paires de bosons de Higgs, paires simultanées, donc qu'on veut observer. Et il y a une chance que ce soit observé au LHC à haute luminosité, mais ce sera marginal statistiquement sans doute, ce sera difficile, mais encore une fois, les nouvelles techniques, la quantité de données accumulées nous laissent des espoirs. Mais pour cela, on est sûr qu'on a besoin d'une autre machine, et c'est cette machine, le FCC.
Donc le FCC, vous êtes co-responsable de ce projet pour ce qui est de la partie française.
Oui.
Donc le projet est dessiné, conçu. J'ai vu toutes sortes de dessins qui montrent où cette machine va s'installer, les détecteurs qui sont prévus,
oui.
Le calendrier même, le financement.
Alors le financement, oui.
Mais alors, quelles sont les étapes qui viennent? Vous allez devoir défendre ce projet devant les États membres du CERN, pour l'essentiel des pays européens. Quand est-ce que ça va se passer et quelles sont vos craintes et vos espoirs?
Alors, justement, on est dans une phase de ce qui s'appelle de stratégie européenne, d'une mise à jour de la stratégie européenne dans les deux années qui viennent. On doit converger d'ici l'été 2026. Et la grande question, c'est de savoir si maintenant tous les pays européens vont soutenir sans ambiguïté la construction de ce futur collisionneur qui, contrairement, le LHC fait 27 km de circonférence, celui-ci en fait 91. Il est également dans un tunnel enterré dans la région du CERN. Il passera sous le lac Léman, à 200-300 mètres de profondeur. Donc, effectivement, le projet est dessiné. L'étude de faisabilité est en train d'être complétée. Et les premiers retours qu'on a, c'est qu'effectivement, c'est une machine faisable techniquement. Nous avons eu une réunion de stratégie en France au début de cette semaine, qui a effectivement soutenu le FCC comme la meilleure option, comme machine du futur, dans sa version électron-positron en première phase, et puis à terme, ça pourrait être remplacé par des protons-protons pour monter à très haute énergie.
Donc dans une première phase, si je comprends bien, Gregorio Bernardi, ça va être une machine qui ressemble au LEP en plus grand. Dans une deuxième phase, une machine qui ressemble au LHC en plus grand.
Voilà.
De 27 km à 91,
oui.
Ce qui n'est pas rien.
C'est pas rien, et elle ressemble, mais elle est quand même plus riche, parce que justement, elle va pouvoir passer rapidement d'une énergie dans le centre de masse à une autre. Donc elle va étudier beaucoup plus de points dans le centre de masse. Elle va étudier le Z comme il a été étudié au LEP. Il va pouvoir étudier la production du boson de Higgs, la production de paires de W, donc ces bosons intermédiaires dont on a parlé tout à l'heure. On va peut-être essayer de tourner à la résonance du boson de Higgs à 125 GeV dans le centre de masse, et donc essayer de voir si on voit ces désintégrations en électron-positron, et donc mettre en évidence comment l'électron prend sa masse, si elle le prend bien du boson de Higgs, comme on espère le démontrer. Et puis après, en montrer à l'énergie du top, pour produire des paires T-top-anti-top. Et là aussi, ce serait la possibilité d'étudier le quark top, qui est aussi un quark étonnant, puisqu'il fait environ 175 fois la masse du proton, donc extrêmement, pour une particule fondamentale, c'est étonnant. Bref, il y a énormément de possibilités que cette machine va pouvoir fournir en quelques années seulement. Et donc, on attend énormément de physique, y compris aussi l'étude de ce qui s'appelle les saveurs lourdes. Donc, c'est-à-dire, c'est là où on produit des paires de quark B et anti B qui, elles aussi, ont des caractéristiques spéciales qui peuvent donner de la nouvelle physique. Ou la recherche de ces particules très très faiblement couplées, puisqu'on aura une grande statistique. Donc il y a vraiment un très très gros programme de physique qui s'annonce, et effectivement les physiciens sont majoritairement derrière ce projet, et espèrent vraiment faire beaucoup de physique avec.
Mais sans vouloir être désobligeant, messieurs, quand j'étais étudiant, les professeurs nous expliquaient qu'on avait compris la nature de 100% de l'univers, c'est-à-dire on connaissait la matière dans son intégralité, faite d'atomes, eux-mêmes constitués d'un noyau avec des protons, des neutrons, des électrons. Et aujourd'hui, vous ne connaissez que 4% du total. Le reste, c'est de la matière noire et de l'énergie noire. Est-ce que cette future machine, ou est-ce que déjà le LHC, pourrait donner des pistes sur ce qui constitue ou pas la matière noire?
Alors, pour ce qui concerne l'énergie noire, c'est peu probable à court terme, disons, bon, sauf s'il y a une... des théoriciens nous indiquent effectivement des canaux de recherche auxquels on n'aurait pas pensé pour l'instant.
L'énergie noire, c'est celle qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers.
Absolument. Par contre, pour la matière noire, là, si c'est de la, enfin, ça pourrait effectivement être découvert aussi bien au LHC que dans ce futur collisionneur circulaire. Ça, c'est effectivement des particules, en particulier ces particules faiblement couplées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, ce sont des bons candidats pour la matière noire. Et donc là, effectivement, les recherches doivent continuer pour voir si on arrive à les mettre en évidence. Oui.
Michel Spiro, vous avez travaillé, vous, à une expérience que j'ai citée, l'expérience Eros,
oui,
sur la matière noire, justement,
qui indique que la matière noire n'est pas faite de matière ordinaire. Cette expérience est visée à regarder si, éventuellement, la matière noire ne pourrait pas être des objets sombres, massifs, dans le halo, comme des planètes.
Constituées d'une matière déjà connue.
Constituées d'une matière déjà connue.
La réponse est non.
Donc la réponse est non, et donc ça va dans le sens de dire qu'il s'agit probablement de particules élémentaires. On avait toutes les raisons de penser que ces particules élémentaires étaient prédites par une variante de la théorie standard qu'on appelle la supersymétrie, dans laquelle la particule la plus légère des partenaires supersymétriques de toutes les particules connues devrait être stable. Et c'était l'espoir de la trouver au LHC. Malheureusement, pour l'instant, on ne l'a pas trouvée. Rien ne dit cependant qu'on ne la trouvera pas plus tard avec le LHC ou bien avec le FCC. Toutes les possibilités que cette particule soit une particule dite supersymétrique n'ont pas encore été explorées. Une bonne partie des possibilités ont été explorées, mais elle peut se cacher encore dans des recoins qu'on n'a pas vus.
Mais quand le LHC a été décidé, le dossier scientifique était assez clair, il s'agissait de trouver le boson de Higgs. Là, pour cette machine dont vous nous parlez, Gregorio Bernardi, le FCC, ça a l'air moins clair. C'est plus exploratoire. On a moins qu'avant un guide permettant de savoir à l'avance ce qu'on va trouver, ou ce qu'on devrait trouver.
Absolument. Effectivement, c'est un peu un changement de paradigme pour les physiciens qui ont... Les physiciens actuels, effectivement, ont vécu pendant une grande partie de leur carrière avec un modèle standard qui allait prédire un boson de Higgs, et cette recherche a duré longtemps et s'est achevée avec succès. Et donc on a eu une petite déformation que la recherche, c'est chercher quelque chose que l'on connaît. Mais malgré tout, dans beaucoup de domaines scientifiques, la recherche consiste aussi à chercher des choses que l'on ne connaît pas. Et là, on est un peu dans cette optique. On sait qu'il y a de la physique au-delà du modèle standard, comme on l'a dit. On le sait, on voit bien que l'univers ne peut pas être expliqué avec le modèle standard uniquement. Mais on ne sait pas où il est. Et donc, on a vraiment besoin de nouvelles machines et de nouveaux instruments cosmologiques, et aussi des études d'ondes gravitationnelles, et ainsi de suite, pour essayer de cerner où se trouve cette nouvelle physique. Oui.
Mais cette machine, elle est quand même énorme, 91 kilomètres.
Elle n'est pas si grande que ça, c'est trois fois plus grand que la précédente. Beaucoup d'améliorations viendront des améliorations technologiques, donc ça permet aussi des développements technologiques qui ensuite bénéficient à l'industrie, des développements informatiques avec justement ces nouvelles techniques d'analyse.
Est-ce qu'on a creusé des tunnels aussi grands à part celui de la Manche?
Non, mais disons c'est pas un challenge. Enfin, ce ne sont pas la difficulté. Bon, il va falloir.
La région n'est pas spécialement plate.
La région n'est pas spécialement plate. Il va falloir effectivement utiliser intelligemment ce qu'on va extraire, parce qu'effectivement il y a un petit peu de. Mais justement, le CERN travaille à rendre aussi acceptable que possible justement l'impact écologique de cette machine. Et effectivement, ça reste un tunnel qui est creusé, vous voyez, tous les 50 ans. Donc c'est normal que pour le Centre mondial de la physique des particules, faire un tunnel pour la physique des particules tous les 50 ans, c'est pas...
Et quel est le calendrier, justement, puisque la décision sera prise dans quelques années, j'imagine.
Voilà. Le calendrier serait donc que la décision serait autour de 2028, le financement accepté autour de 2030 et peut-être le début pour commencer à creuser le tunnel vers 2032 ou 2033. C'est pour une fin autour de 2040 environ.
Donc les premières collisions en 2040.
En 2045 plutôt. Le LHC va tourner jusqu'en 2041 et donner quelques années de respiration aux physiciens pour préparer les nouveaux détecteurs. Les deux projets sont décorrélés puisque l'anneau n'est pas le même. Donc en théorie, on pourrait commencer en même temps, mais en pratique, évidemment, beaucoup de physiciens qui travaillent sur le LHC vont rejoindre le FCC à terme. Et donc, c'est un peu normal d'avoir ce calendrier, quoi, qui est aussi financièrement soutenable.
Quelle est la question, et je pose la question à l'un et à l'autre d'entre vous, qui vous tourmente le plus? Vous aimeriez connaître la réponse absolument. Michel Spirou.
La question de physique?
Oui.
C'est quand même la matière noire, pour moi, qui me paraît le plus important. L'énergie noire, je pense qu'effectivement, c'est inaccessible. Mais si on pouvait accéder et comprendre donc une physique au-delà du modèle standard qui puisse englober la réponse à la matière noire, ça serait un pas extrêmement important pour.
Et si on la découvre jamais, qu'est-ce qu'il faudra en conclure?
Ben, peut-être qu'il y a une révolution aussi théorique à
la avoir. La façon de comprendre la gravitation.
Exactement.
Et vous, Gregorio Bernardi?
Moi, disons, bien sûr, ça c'est une question que tout le monde se pose. Et une autre question, moi, qui me turlupine, c'est plutôt l'existence de trois familles de particules identiques, mais à des masses différentes. Ceci a l'air de nous indiquer, il y a cette répétition, je pense que la théorie fondamentale doit se baser sur moins d'éléments. Donc je suis un peu étonné par cette répétition des familles.
Qu'est-ce que vous appelez une famille?
Alors les familles, donc il y a la première famille, la famille donc qui permet de composer le proton, le neutron, qui a l'électron et puis le neutrino issu de la radioactivité que l'on peut observer sur Terre. Ça, c'est la première famille. Mais après, il y a une deuxième famille qu'on a découvert dans les accélérateurs et dans les rayons cosmiques, avec des qui sont identiques, un électron lourd, des quarks plus lourds, et ainsi de suite. Et puis même une troisième famille. Et donc, c'est une répétition, comme si c'était des particules excitées de la première famille. Et donc, elles existent, on les a découvertes, on est capable de les produire dans l'accélérateur, mais on n'a pas d'idée pourquoi, enfin, s'il n'y a pas une sous-structure qui permettrait d'expliquer ça. Alors les sous-structures, pour l'instant, ne permettent pas facilement, mais on va explorer.
Michel Spirou.
Et peut-être encore plus, j'espère bien qu'il y aura des surprises, parce que les recherches guidées par la curiosité, comme c'est le cas, hein, c'était le cas pour le modèle standard, mais maintenant pour la physique au-delà du modèle standard, c'est vraiment la curiosité qui nous guide. Et l'histoire nous montre que les recherches guidées par la curiosité, ce qu'on appelle les recherches fondamentales, sont la source de découvertes inattendues et de découvertes dans lesquelles les générations futures pourront puiser pour faire face à leurs problèmes. Et dans ce sens, même si on a l'impression que ce développement de la physique des particules n'est pas durable, non, je crois qu'il contribue par l'avancée de la technologie, l'avancée de la science, de la connaissance, à donner des outils pour surmonter les problèmes auxquels on a à faire face, et notamment des outils pour les prochaines générations. La mécanique quantique, lorsqu'elle a été découverte dans les années 20, il a fallu attendre 50 ans pour que les premières applications arrivent. Il y a eu une deuxième révolution de la mécanique quantique à travers l'intrication et les inégalités de Bell en 1960.
On a parlé avec Alain Aspect,
voilà,
tout récemment.
C'est 60 ans plus tard qu'on voit les premières applications. Donc le modèle standard, ou bien la physique au-delà du modèle standard, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle peut être, je ne sais pas, mais l'histoire nous montre que les applications seront peut-être des bénéfices pour les prochaines générations. Et c'est vraiment le paradigme de la soutenabilité, donner des outils aux générations futures.
On va en parler tout à l'heure, mais à propos de surprise, vous connaissez la phrase de Ludwig Wittgenstein, qui a dit un jour, je m'attendais à avoir une surprise en rentrant chez moi, il n'y en a pas eu, et ça m'a surpris. Alors, je m'attendais à ce que, parlant de l'histoire du CERN, vous évoquiez l'invention, on peut dire, du web, par un chercheur qui s'appelle Tim Berners-Lee, je crois,
exact.
Et qui, en 89, a mis sur pied un système informatique, qu'on a appelé le web, qui a permis de transmettre des informations, des données, dans tous les laboratoires du monde.
Ça illustre parfaitement ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire qu'on a un programme, c'était le LEP. Pour ce programme, il fallait faire collaborer des gens de la planète entière avec énormément de données, construire de manière collaborative, coopétitive. Et pour ça, il fallait inventer des outils pour travailler ensemble. Et personne ne s'attendait à ce que cet outil, le web, naisse. Et il est né. Et il a transformé la planète. Et donc, ce sont ces défis qui paraissent à première vue gigantesques. On dit c'est pas durable, etc. Ce sont ces défis qui donnent la nécessité, la motivation pour faire des innovations qui ensuite transforment la société. On a parlé de ce tunnel. Pour ce tunnel, il y a l'espoir de faire un tunnel qui utilise des techniques et notamment des ciments qui soient fabriqués sans décarboner, qui permettent aussi, à travers la molasse qu'on extrait, de faire des fertilisateurs. Donc, ce qui paraît au départ destructeur peut devenir constructeur de nouvelles technologies. Et le web, c'est exactement ça.
Et qu'est-ce que vous attendez comme retombée technologique secondaire, disons, de cette fusion machine, le FCC, du point de vue des détecteurs, de l'informatique, de l'intelligence artificielle peut-être?
Oui, alors justement, c'est bien le principe de ces retombées, c'est qu'elles sont a posteriori. Donc on a effectivement du mal à les prédire. Et c'est pour ça qu'en fait on n'a pas parlé du web, parce que pour les physiciens, ce qui nous passionne bien sûr, c'est ces recherches, en sachant que nous transportons avec nous ce lot de découvertes technologiques fondamentales. Et certains d'entre nous s'y consacrent effectivement pour effectivement les retombées soient le plus visibles. Et puis d'autres effectivement sont plus concentrés sur les technologies pour faire les détecteurs. Mais ces technologies sont ensuite transmises à l'industrie, oui.
Et dans le rapport Draghi de la Commission européenne, il insiste notamment sur le CERN, qui a une capacité d'innovation et de réindustrialisation de l'Europe et de leadership de l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où on est leader. Donc, c'est une aventure qui peut être très porteur pour l'Europe.
Est-ce que les pionniers qui ont donc eu cette idée de construire le CERN se doutaient que cette installation, ce laboratoire, durerait aussi longtemps et allait sans doute dépasser le siècle, au moins?
C'est difficile de savoir, évidemment, ce qu'ils pensaient à l'époque. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe ferait une grave erreur de ne pas maintenir ce modèle, parce que c'est effectivement un exemple fantastique de collaboration, parce qu'il y a l'Europe qui collabore, mais le monde vient collaborer avec l'Europe au CERN. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, les Américains sont en grand nombre. Il y a environ 2000 utilisateurs américains qui travaillent au CERN en ce moment et qui continueront à travailler également sur le FCC. Ils sont intéressés par ce projet. Et puis tous les autres pays du monde. Il y a 24 membres associés, 24 membres de droit, 10 membres associés, mais aussi une centaine de pays également qui ont fait des contrats avec le CERN.
Est-ce qu'il y a un projet concurrent ailleurs, en Chine ou ailleurs?
Alors, il y a effectivement des projets concurrents. Il y a en particulier effectivement un projet qui a été un petit peu copié sur le projet du CERN, qui s'appelle le CEPC, donc c'est un accélérateur circulaire et qui pourrait être construit en Chine et qui effectivement est assez proche des performances du FCC. C'est clair que la collaboration du FCC est une collaboration mondiale déjà. On a déjà un grand nombre de pays qui travaillent avec nous. Alors que pour la partie chinoise, évidemment, les collaborations sont plus difficiles. Ceci serait une machine nationale, ouverte à la collaboration. Et donc, ce sera difficile. Par exemple, les Américains ont déjà dit qu'ils n'iraient pas travailler en Chine sur cette machine. Donc, ce ne sera pas un projet
mondial. Alors qu'ils sont partenaires du FCC.
Exactement.
Michel Spiro, visiblement pour vous, le CERN est une sorte de modèle. Mais ce modèle n'a pas vraiment fait école. On n'a pas construit ou conçu l'équivalent pour l'espace, ni pour la biologie. Est-ce que ça s'explique? Et est-ce que vous, vous avez des idées de reprise de ce modèle dans d'autres secteurs, scientifiques ou autres?
Oui, c'est un modèle de science ouverte et collaborative. Ouverte, ben, le web en est l'illustration, puisqu'il a été mis à la disposition gratuitement du monde entier, qui s'en est saisi. Les publications qui sortent du CERN sont en mode ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut les consulter gratuitement. Toutes. Il n'y a pas de secret. Ouverte aussi des développements de systèmes d'archivage de papier, mais aussi de données, de vidéos, de tout ce que vous voulez, sur des plateformes qui puissent servir à tout le monde. Et collaborative, on l'a dit, puisque pratiquement tous les pays du monde collaborent, même si en ce moment il y a des tensions géopolitiques qui posent des difficultés pour la collaboration. Mais c'était quand même l'esprit du CERN, dès le départ, d'être une plateforme collaborative. Et on sait bien qu'on a affaire à des défis aujourd'hui qui sont des défis mondiaux, en dehors de la physique des particules, qui est un défi mondial. Hein. La physique des particules est un bien commun mondial, et on a des défis mondiaux comme le climat, mais plus généralement, comme tous les problèmes du développement durable, la biodiversité, l'eau, les sols, etc. Et j'essaye, moi, justement à travers des initiatives portées par les Nations Unies et l'UNESCO, de promouvoir le modèle du CERN. Je l'ai fait dans le cadre de l'année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable. Maintenant, je le fais dans le cadre de la décennie de toutes les sciences et de toutes les connaissances pour un développement durable. J'essaye de promouvoir ce modèle de science ouverte et collaborative pour que tous ensemble, on puisse partager des expériences. Mais au niveau, ça peut être des expériences au niveau de village, au niveau de province, au niveau de pays, au niveau de groupe de pays, au niveau mondial, que toutes les données, toutes même les narratifs associant les connaissances dans la société, les connaissances indigènes, tous ces narratifs, toutes les audios, toutes les vidéos, tous les papiers puissent être mis sur une plateforme ouverte. Et le CERN est prêt à le faire, à aider à ça, pour partager et essayer d'avancer ensemble vers des solutions à impact pour le développement durable.
Mais pour ce qui est de la connaissance elle-même, est-ce que vous pensez qu'elle est facile à diffuser, à partager, comme on dit, sachant que les concepts que vous manipulez avec aisance sont en réalité complexes? Il y a même tout un vocabulaire, des acronymes, une sorte de jargon.
Alors,
qui rend la chose assez peu accessible.
Le CERN a fait un effort énorme de communication de tous ces concepts et des technologies autour de la physique des particules. Il y avait ce qu'on appelait le globe qui a attiré énormément de visiteurs. Maintenant, il y a un nouveau portail, le portail de la science, qui a été construit avec une architecture remarquable par Renzo Piano, l'architecte de Beaubourg, mais qui a fait déjà beaucoup de choses et qui a construit donc cet ensemble qui accueille maintenant 300 000 visiteurs par an, qui sont exposés à ce qui se fait au CERN, à la fois de les concepts, mais aussi les réalisations, les innovations. Et donc un très grand public est initié à cette physique et à cette technologie du CERN. Les professeurs de physique sont également invités dans tous les pays et dans leur langue sont initiés à ces concepts et à ces technologies. Et évidemment, des physiciens jeunes sont également formés de tous les pays, y compris d'Iran, de Palestine, de partout. Et bien sûr, il y a des conférences pour les scientifiques. Donc il y a un effort formidable à tous les niveaux par le CERN, qui considère que c'est une de ses missions de faire passer dans la société les avancées à la fois conceptuelles et technologiques liées à cette discipline.
Grégory Bernardi, vous avez noté comme tout le monde qu'en octobre 2024, le prix Nobel de physique a été attribué à deux pionniers de l'intelligence artificielle, John Hopfield et Geoffrey Hinton, pour, je cite, « leurs découvertes fondamentales et inventions qui ont rendu possible l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones artificiels ». Fin de citation. Comment est-ce que la communauté des physiciens que vous représentez ici a reçu cette nouvelle ? On donne le prix Nobel, non pas à des physiciens, mais à des gens qui travaillent dans l'IA. Est-ce que c'est une façon indirecte de dire que l'IA fera de la physique bientôt mieux que les physiciens? Ou est-ce que c'est un outil pour les physiciens qui devient indispensable?
Oui, ça a été effectivement une nouvelle surprenante, mais disons qui est effectivement peut-être en accord avec l'évolution de l'importance de cet outil dans la société. Donc, bon, évidemment, pour nous, c'est difficile en tant que jugé parti d'exprimer une opinion. Forcément, on aurait préféré que ce soit des physiciens directement agissant dans notre discipline qui obtiennent un prix Nobel. Mais on peut comprendre effectivement que certaines choses, on peut penser par exemple au prix Nobel de littérature qui a été donné à Bob Dylan. On peut dire Bob Dylan, c'était aussi surprenant, c'était pas tout à fait un écrivain au sens classique du terme. Et donc voilà, ces ouvertures du prix Nobel, est un peu à leur honneur.
Michel Spiro, vous êtes d'accord?
Oui, mais il y a quand même eu déjà des ouvertures du prix Nobel à l'instrumentation. Georges Charpak en est une illustration. C'est pas directement l'avancée des concepts de physique, c'est la détection de l'imagerie. Et là, l'intelligence artificielle, on voit bien quand même que, comme l'a dit Gregorio, les réseaux de neurones, le machine learning, ont déjà joué un rôle important dans la physique des particules, et c'était le berceau pour arriver à l'intelligence artificielle. Donc moi, je suis pas choqué. D'ailleurs, il y a aussi Giorgio Parisi qui a eu le prix Nobel un peu lié à ces choses-là. Donc je suis pas choqué par ce prix Nobel, je pense que ça va...
Mais si l'année prochaine, le prix Nobel n'est pas donné non plus à un physicien, vous allez commencer à trouver ça suspect, non?
Oui, il faut que les choses restent quand même. C'est important aussi de remonter à la source vraiment des découvertes. Donc c'est important de récompenser.
Alors justement, à propos des découvertes, j'avais une question naïve. Pour reconnaître une particule dans un jeu de données, il faut déjà la connaître. Et par exemple, si vous découvrez une particule, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle peut être une particule de matière noire? À quoi ça se reconnaît, une particule de matière noire?
Disons là, par exemple, il faut qu'elle puisse répondre aux critères d'une particule de matière noire. C'est-à-dire, ça doit être une particule qui a une certaine durée de vie, déjà. Et puis, qui doit être vraisemblablement très faiblement couplée. Parce que sinon, sans doute, elle aurait été produite en plus grand nombre et donc elle dépasserait le seuil de matière noire. Donc c'est des propriétés comme ça qui permettent assez...
Comment est-ce qu'on peut démontrer qu'elle est très présente dans l'univers?
Ah, qu'elle est très présente. Disons qu'une fois qu'on l'a découverte, si on connaît son processus de production, on peut, par simulation, remonter aux premiers instants de l'univers et voir si elle était produite en nombre suffisant, en quantité suffisante. Et effectivement, on aurait un modèle qui nous permettrait de dire si c'est le bon candidat.
Ça, oui. On détecte les neutrinos dans les collisions proton-proton ou dans les collisions épuce et moins. Et les neutrinos, c'est déjà des particules de matière noire. Elles ne constituent pas toute la matière noire dans l'univers, mais elles en constituent une partie. Et on arrive à les détecter par le fait qu'il manque de l'énergie qui est partie dans une certaine direction, qu'on ne voit pas. Et à travers des propriétés indirectes, on peut signaler la production d'un neutrino.
Est-ce que vous êtes optimiste, l'un et l'autre, à propos de cette machine, le FCC? Est-ce que vous pensez qu'elle va être décidée ou est-ce que les problèmes, notamment économiques, que l'Europe semble traverser, vont être tels qu'il y aura soit un délai, soit un abandon?
Moi, je suis d'un naturel optimiste, mais je pense surtout que l'Europe, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, le rapport Draghi montre clairement que c'est vraiment un atout de l'Europe, cette physique. On en est tous conscients, donc je pense que la communauté va s'accrocher à l'idée que nous devons faire cette machine, faire avancer cette science, et le meilleur endroit pour faire avancer cette science, ça reste dans un endroit ouvert comme le CERN. Et donc ça va peut-être prendre un tout petit peu plus de temps parce que, comme vous dites, la situation économique est un petit peu tendue. Mais c'est un projet qui s'étale sur 50, 70 ans. Donc aujourd'hui, il faut raisonner.
Mais c'est comme les cathédrales.
Non, c'est pas comme les cathédrales parce que là, on vise la science, quoi. C'est pas tout à fait pareil.
Non, mais en termes de durée du projet, d'investissement.
Oui, oui.
Est-ce que les jeunes scientifiques en herbe sont intéressés par cette physique autant qu'ils l'ont pu l'être dans les décennies passées?
Évidemment, il y a de nouvelles sources d'intérêt, comme on a vu. Il y a d'autres types de physique ou de science. Ou de calcul, qui attire aussi les jeunes. Mais à la fin, on en revient au fondement. Et cette physique a le mérite de s'attaquer au fondement, la création de l'univers et ainsi de suite. Et ça, je pense que ça restera pour toujours une source d'attraction très forte pour les personnes qui s'intéressent vraiment à la science et à la culture.
Michel Spiro, vous partagez cet avis ?
Je suis optimiste. Oui, je pense qu'il y aura sans doute des contraintes financières. Peut-être qu'il faudra faire ça à budget constant pour les pays européens.
C'est prévu, je crois, non ?
Oui, c'est ça qui est prévu. À budget constant, bon, on l'assumera. Par contre, on aura de plus en plus de partenaires mondiaux, donc ça permettra de quand même d'accélérer. Peut-être qu'il y aura un budget carbone aussi qu'il faudra respecter, une trajectoire carbone. Je pense qu'on est prêt à s'investir pour que la machine soit économiquement tenable et qu'elle soit aussi en ligne avec les objectifs du développement durable. Ça va demander de l'innovation, à la fois pour les coûts et pour l'impact environnemental, mais c'est stimulant. Les contraintes sont stimulantes, dans une certaine mesure. C'est grâce à ces contraintes qu'on innove, parce qu'on a le but de tous réussir ensemble.
Est-ce que vous avez présenté le projet aux riverains, aux gens de la région de Genève, donc ?
Absolument. Depuis, en particulier cette dernière année, maintenant, il y a un gros effort de communication, parce que forcément, les personnes sur place ont besoin de connaître le projet. Il y a toujours un petit peu d'inquiétude quand on fait un projet de physique fondamentale. Mais maintenant, il faut bien se rendre compte que c'est quand même un tunnel qui est enterré 300 mètres sous terre, qui a juste 8 puits qui apparaissent sur 90 kilomètres.
Combien de détecteurs qui seront dans des cavernes immenses ?
Il y aura 4 grands détecteurs dans 4 cavernes, donc séparées donc aux 4 coins du cercle, si on peut dire. Et ça apportera évidemment aussi une activité économique par ailleurs. Donc il y a des inconvénients, des petits inconvénients et des avantages.
Michel Spiro.
Oui, et je voudrais dire aussi que si on arrive à faire cette machine, j'espère qu'elle sera mondialement ouverte et que toute la planète y participera. Ça aussi, ça contribue à relâcher un peu les tensions géopolitiques qui existent. L'esprit du CERN, c'est d'être ouvert à tous les pays, quelles que soient les croyances, les
oui, il arrive même gens. Qu'il accueille des physiciens dont les pays respectifs sont en guerre.
Exactement.
Donc c'est un message d'espoir. Est-ce que vous connaissez, ça sera presque le mot de la fin, l'anagramme du collisionneur d'électrons, le collisionneur d'électrons ? Une anagramme. Ça donne « Les crocodiles n'ont rien lu ». Je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça. Il y en a une autre, l'anagramme de l'accélération de l'accélérateur de particules. Ça donne « Éclipsera l'éclat du créateur ».
C'est mieux.
Comme certains de vos collègues ont appelé particules de Dieu le boson de Higgs,
oui,
cet anagramme vient en quelque sorte les contredire. Je vous remercie d'être venus l'un et l'autre, Grégorio Bernardi et Michel Spiro, pour nous parler des 70 ans du CERN et du futur tel qu'il est envisagé aujourd'hui. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Bouchamp, à la technique François Saint-Jour et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Thank you.
Thank you.